Dans l'évangile de saint Marc, il est écrit de cette manière. Aussitôt après le baptême, Jésus est baptisé, la voix du Père s'est fait entendre. Jésus s'est baptisé, ça veut dire qu'il s'est englouti. C'est extraordinaire, le baptême de Jésus. Il a été englouti, baptisé, il a été englouti dans les eaux du Jourdain, c'est-à-dire les eaux qui sortent du lac de Galilée et qui vont vers la mer morte. Donc toutes les eaux qui sortent du lac de Galilée, c'est-à-dire de l'humanité, toutes les eaux qui sortent de l'humanité et qui vont vers la mer morte. Donc il est immergé dans les océans du péché qui sortent du cœur humain, vous voyez, vers la mer morte. En dessous du niveau de la mer morte. Vous savez. C'est impressionnant quand on va dans la mer morte. On se fait baptiser, on va en Israël, on va dans les eaux du Jourdain. On se fait baptiser, comme à Lourdes, on se fait baptiser, on va dans la piscine, mais là, les eaux du Jourdain, il n'y a pas de piscine. Donc on rentre carrément dans les eaux du Jourdain. Et puis, on se fait couvrir de l'eau, on demande à Saint Jean-Baptiste de venir se mettre dans nos mains et aller on se fait baptiser du baptême de Jean-Baptiste. Et puis, on fait quelques kilomètres et on arrive à la mer morte. C'est impressionnant, cette mer morte. Les eaux du Jourdain vont s'écouler dans la mer morte. Aussitôt après, l'esprit le chasse au désert, le précipite au désert, le pousse au désert. Vous savez, quand on pousse quelqu'un comme ça, c'est un mot très fort, ça. Qu'on a du mal à traduire, et il demeura dans le désert 40 jours tenté par Satan. Et il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. C'est toutes les... Jésus, dans cette tentation, dans cette série, dans ce texte, on voit Jésus qui rentre donc dans les conséquences du péché originel, il a tout pris en lui, sauf le péché. Donc il a pris tout péché sur lui, sauf sans péché lui-même. Donc on peut très bien subir toutes les tentations sans péché. Donc, avoir une tentation et être submergé complètement par une tentation n'est pas un péché. Jésus a subi tout ça, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de très fort dans cette histoire, parce que il faut comprendre ce que c'est que la première tentation, ce que nous avons vu donc la fois dernière. Il va falloir qu'on regarde la tentation qui s'abat sur le Christ, donc sur le chrétien, sur l'enfant de Dieu qui est en nous, sur l'enfant renouvelé qui est en nous. Le Verbe de Dieu a saisi quelque chose de nous. On est vraiment les fils de... C'est vraiment le Christ qui vit en nous. Alors, du coup, il y a donc de nouveaux types de tentations qui s'abattent sur le Christ. Il y a des grands types de tentations. Donc, la tentation universelle, c'est une tentation qui est plutôt liée au péché originel et qui déstructure le champ de bataille de notre vie intérieure, comme nous l'avons vu, en y inscrivant d'abord le doute. Il ne faut jamais oublier ça. C'est le doute qui commence à nous introduire dans la tentation commune. Un petit doute. C'est jamais autre chose qu'un doute. Et qu'est-ce qui provoque ce doute? C'est ce que nous avons vu. C'est un mensonge qui nous vient de l'extérieur. Ah, il y a un doute. Alors le doute, en cascade, nous déstructure complètement, déstructure notre le lien entre notre âme et notre corps, le lien entre notre cœur et nos sens externes, le lien entre notre intelligence et notre raison, le lien entre notre imagination et notre vie intérieure, etc. Tout est bousculé, troublé. On ne sait plus où on est, on finit par oublier même. Et du coup, on est déconnecté, on oublie Dieu, du coup on est déconnecté de sa force, et du coup, on devient, notre volonté est beaucoup moins forte, et du coup, on finit par oublier nos limites, on rentre dans l'ignorance, et on commence à avoir peur, et du coup, on se réfugie sur la voie, ça c'est ce que nous avons vu, on se réfugie sur la voie, ou sur le pouvoir. Tout ça fait que notre vie intérieure va être dominée par l'imaginaire au lieu d'être fécondée par une imagination limpide. Et ça, nous l'avons vu. Et vous voyez, quand Jésus part 40 jours, ces 40 jours, il est très intéressant cet évangile parce que ces trois évangiles sont très beaux parce que. On voit que Jésus est baptisé, ça veut dire, donc il se plonge lui-même dans ce bouleversement. On est sans dessus dessous, on est bouleversé. Et on voit souvent Jésus dans l'évangile qui est bouleversé. Et donc il a vraiment vécu ce bouleversement. Il est bouleversé. C'est quelque chose de très très fort, parce que ayant vécu ce bouleversement, vous voyez par exemple, nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous rentrons dans le péché originel, il y a des pardons qu'on ne donne pas à Dieu, on est déconnecté de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'amour quasi infini de Dieu, et du coup, il y a ce bouleversement qui est en nous, et puis il y a nos fautes personnelles, nos fautes morales, nous introduisent dans un bouleversement qui fait que nos pensées ne sont pas justes, notre vie intérieure n'est pas ajustée à ce qu'on voudrait, nos actes non plus, et nos pensées non plus. C'est tout ce bouleversement. Voilà comment on est. Voilà comment, c'est pas comme ça qu'on est, c'est comme ça qu'on vit, plus exactement. Mais on est toujours des saints, puisqu'on est sacré. Oui. Alors, il y a... à partir de ce bouleversement, on va rentrer dans des... Si on n'y prend pas garde, si on se laisse aller dans le courant de notre... dans le courant normal, eh bien, on rentre dans toutes les maladies spirituelles qui sont les conséquences du péché originel. Alors, c'est essentiellement les quatre que nous avions vus, hein, donc... un grand égoïste, on est très égoïste, on regarde toujours en fonction de nous, alors que bon, on sait bien, Jésus, Marie n'ont aucun regard sur eux-mêmes, aucun. Il y a toutes les compensations, les fuites, toutes les compensations. Il y a l'endurcissement du cœur et surtout donc, la relation change du coup parce que comme on a peur, on devient indifférent, on se replie sur soi et on devient indifférent à l'autre. Alors, l'autre nous indiffère de plus en plus. Le cœur de l'autre nous indiffère. On est dans une indifférence incroyable. On est blessé par l'autre parce qu'il est mal. Mais si on est blessé par l'autre parce qu'il est mal, c'est parce que finalement on est indifférent. D'indifférence qui est qui n'habite pas dans le cœur de l'autre, voyez, c'est pas bien que l'autre il en est blessé aussi parce qu'il dit mais alors je suis pas respecté quoi. Et ben Jésus, voyez, finalement ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que Jésus il est rentré dans ce grand bouleversement, il a été plongé dans ce grand bouleversement. Il a été troublé, il a agonisé, il a été bouleversé, il a été saisi par l'angoisse, il a été saisi par ce climat, au fond, d'indifférence, ce climat d'angoisse, de peur. On le voit bien, cette semaine. Mais le fond de son cœur et les sommets de son intelligence ne sont pas atteints. Pourquoi ? Parce qu'il vient d'être baptisé. Mais il est baptisé depuis l'éternité. Mais là, c'est une manifestation. C'est qu'il est baptisé cette fois-ci au milieu de cette... au moment où il prend sur lui ce bouleversement intérieur, psychique, psychospirituel de tous les hommes, ces troubles, cette angoisse de tous, eh bien, au même moment, il y a un nouveau baptême pour Jésus. Il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit pour Jésus. Il a fait une expérience nouvelle. Son intelligence, qui était déjà dans la vision béatifique, a été plongée une nouvelle fois, a été plongée une nouvelle fois dans la lumière, dans la génération. Il a fallu que le Père réengendre, jusque dans ce trouble intérieur du Christ, son Fils. Il a fallu que le Père reconnaisse son Fils à travers ce trouble. Il y a quelque chose donc de nouveau. La relation entre le Père et le Fils à l'intérieur du trouble qui a saisi Jésus parce qu'il s'y est plongé entièrement, parce qu'il n'a aucun regard sur lui, il ne nous regarde que nous. Donc il vit ce que nous vivons. Et si nous vivons la tentation, il subit cette tentation. Si nous vivons la tristesse du repliement, l'agressivité de l'endurcissement, l'angoisse de l'indifférence, etc., et le découragement, toutes ces révoltes, au fond, il les vit sans lui-même avoir péché. Les sommets de son cœur sont repris par le feu ardent de la rencontre entre l'amour du Père et du Fils troublé dans son âme pour donner une présence de la troisième personne de la très sainte Trinité dans son cœur qui est miséricordieuse. Pour la première fois, devient active. Parce que vous savez, la présence du Saint-Esprit dans la très sainte Trinité, dans le mystère de l'incarnation, dans la nativité, elle est passive. Tandis que là, avec partie du baptême, c'est pour ça que c'est la première fois qu'on voit la colombe. Il y a une source de sérénité nouvelle qui jaillit dans l'humanité du Christ à partir du baptême. Il y a une expérience nouvelle dans le Christ. C'est ça qu'il faut saisir au baptême. Et à partir du moment où il y a ce baptême de la grâce de la très sainte Trinité à travers ce trouble d'une humanité bouleversée, angoissée, tentée. Alors l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait? Il devient actif, vous voyez, il le pousse au désert. C'est garage en hébreu. Je crois que c'est ça, garage. C'est le même mot, c'est en grec hein, dans le Nouveau Testament, mais ça correspond au mot hébreu garage. Dieu chasse l'homme du paradis terrestre. Garage. Il le chasse, il le pousse dehors du paradis terrestre. C'est pour le faire vivre que Dieu chasse l'homme du paradis terrestre. Pas pour le punir, pour le châtier. C'est l'amour de Dieu, à partir du moment où l'amour de Dieu jaillit dans une humanité troublée. Pourquoi ? Parce qu'elle est saisie par l'amour fraternel et la miséricorde. Alors, elle est troublée, il participe à la tentation. Alors, cette participation fait que la véhémence de l'amour éternel de Dieu le pousse dans une tentation encore plus suprême. Et c'est pour ça qu'il est poussé au désert, pour être confronté directement avec le diable. Parce que lorsqu'on rentre dans la lutte spirituelle, la vie chrétienne avec Jésus nous pousse dans cette confrontation directe avec le démon. Tandis que jusque-là, on se luttait contre nos maladies spirituelles, nos troubles, nos difficultés, comment est-ce que je vais faire pour aimer davantage, pour faire un acte d'adoration, retrouver mon cœur, gérer mes émotions, faire un acte d'adoration naturelle, trouver mon corps spirituel, spiritualiser ma chair de l'intérieur, aimer humainement. Vous voyez, tout ça, c'est très très bien. C'est très bien, il le faut, il le faut. Mais la grâce chrétienne nous donne une nouvelle amour, une nouvelle révèle un nouveau trouble, vous voyez, un nouveau bouleversement. Et du coup, il y a une nouvelle tentation. Bon, donc, puisque, tant pis, hein, on ne peut pas rentrer trop dans les tentations chrétiennes, on ne va pas avoir le temps, il reste seulement une demi-heure, donc je voudrais vous signaler ce livre, hein, qui, si vous voulez voir les troubles dans lesquels nous plonge la première méta-tentation, c'est du péché originel qui fait qu'on est chassé hors du paradis terrestre pour lutter spirituellement et trouver la justice de l'amour, la justesse de l'amour, la lumière de l'amour de Dieu et de l'union à Dieu, l'oraison, etc. Thérapeutique des maladies spirituelles, Jean-Claude Larchet, édition du Cerf. Il n'y a que 800 pages, c'est vite lu. C'est très beau, très grand, magnifique. Voilà les troubles. Les troubles, donc, c'est cette indifférence, cet endurcissement du cœur, cet égoïsme, cette surdité, vous voyez, on devient sourd, cette agitation qui fait qu'on ne fait plus oraison, etc. Donc, c'est ce que nous avons vu. Et du coup, cet isolement qui nous oblige sur nous-mêmes et finalement, cet endurcissement qui nous met dans l'indifférence. Et ça, c'est les structures, les sources des sept péchés capitaux qui sont là. Je voudrais vous lire juste quelques passages pour que vous ayez envie de l'acheter, de mettre le nez là-dedans. C'est très très bien parce qu'il faut guérir, hein. Il faut guérir, c'est par l'amour, hein, qu'on guérit de tout ça. On guérit de tout ça. Et il faut arriver à reconnaître en nous tous ces péchés, c'est très important. Je vous ai cité un jour une citation d'Isaac le Syrien. Il faut connaître ce péché. Comment ce péché originel, cette tentation originelle, s'inscrit en nous dans un péché personnel. Et inscrit en nous des lignes de force du vice. On est devenu vraiment vicieux. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on est habitué. On trouve ça normal. Et vous voyez, c'est pour ça que j'aime beaucoup, je vous l'ai cité déjà, mais je vous le relis, parce que j'ai retrouvé dans ce livre-là, dans les discours ascétiques d'Isaac le Syrien, Saint Isaac le Syrien. De temps en temps, priez Saint Isaac de Syrie, priez pour tout. Celui qui connaît ses péchés est plus grand que celui qui ressuscite les morts par la prière de sa foi. Celui qui reconnaît son péché. Moi, je connaissais autrement cette citation. Je la connaissais comme celui qui reconnaît son péché, qui le voit, est plus grand que celui qui ressuscite un mort par sa foi. Celui qui gémit une heure seulement sur son âme est plus grand que celui qui sert le monde entier par sa contemplation. Celui auquel il a été donné de se voir lui-même tel qu'il est plus grand que celui auquel il a été donné de voir les anges eux-mêmes par un don de Dieu. C'est magnifique ça, vous voyez, ça c'est les Pères du désert. Ce livre, il est fait uniquement à partir des textes sur l'état dans lequel nous sommes à la suite du péché originel et de nos connivences personnel avec ce péché originel, connivence avec justement cette surdité, cette agitation. Ça commence par l'agitation. Hein. Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'agites, tu t'agites, tu t'agites. Une seule est nécessaire. Faire oraison. Faire oraison pour qu'il y ait cette tempête intérieure et que tu puisses voir. Pendant le premier tiers de l'oraison, la bourrasque. Et que tu puisses voir, justement, ta maladie spirituelle, de manière que Jésus soit plongé avec toi et que Marie puisse l'immaculiser, la purifier, la sanctifier, sanctifier le monde entier à travers ça, vous voyez. guérir spirituellement. Vous voyez, la première guérison que Jésus est venu nous apporter, il a été baptisé dans les eaux du Jourdain, il a été plongé dans notre détresse, il a vécu notre détresse, il nous a accompagnés dans notre détresse, vous voyez, et puis il nous a fait découvrir la grâce qui était cachée en dessous. C'est la première rédemption. C'est par rapport au péché originel. C'est par rapport à nos maladies spirituelles. Bon, ben, peut-être qu'à la rentrée, on pourra voir T2, donc les tentations par rapport à la grâce sanctifiante, par rapport à la vie divine qui est en nous, par rapport à la foi théologale. Quels sont donc ces grandes vices qui sont en nous, vous voyez ? Ces vices qui sont en nous, eh bien, je prends juste le... Je vous l'avais dit avant-hier, je crois, mais je vais vous le relire parce que vraiment, ça vaut la peine. Il faut savoir par cœur, hein, 7 péchés capitaux, on va se reconnaître. Hein. La philotie. Ah ça, les pères du désert, c'est génial. Hein, Évagre le Pontique, Isaac le Syrien, c'est les tout premiers pères du désert. Vous savez, c'est après les persécutions, il y a plein de moines qui sont partis, mais par milliers. Ils sont coupés dans les mêmes zones. Il y avait 4000 ermites dans le désert de Cété. Et alors, L-A-U-R-E, qui était un autre désert, il y avait plus de 10 000 ermites là-bas. Et puis, il n'y avait que plein de moines du désert, des très très grands, Saint Macaire, Saint Antoine, Saint Isaac, Saint... Faut lire, c'est fou, ces types-là, c'était des géants. Mais c'était sur cette première tentation qu'ils se bagarraient. Tout leur secret, c'est sur la première tentation, sur les premières tentations. Donc la philotie, la gastrimargie. Là, c'est plus connu, la luxure, la philargie. Et l'énodoxie, je crois. Non, la pléonoxie. La philargyrie, pardon, oui, c'est vrai. Oui, ben, oh là, la philargyrie. Ah, une qui est bien connue, c'est les racines d'amertume. L'amertume. La tristesse, si vous préférez. Ah, oh là là, une très importante, l'acédie, la colère, la révolte. La panique, la peur, la crainte servile. Ah, oh, une très amusante, la cénodoxie, enfin, elles sont tous très aimantes. La cénodoxie. Et enfin, l'orgueil. C'est pas pour briller dans un salon, hein. C'est pour c'est pour montrer que vraiment notre culture concernant la vision ou la connaissance du péché n'est pas très 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 développée. On n'aime pas très très. L'orgueil, parce qu'on considère forcément que les autres sont orgueilleux et tout ça. Alors, je vous lis quelques petits passages. Page 444, je me suis dit, vous savez comment je fais quand j'ai un gros bouquin comme ça, je prends les pages importantes, et je prends les chiffres importants. Alors, page 444. L'interdépendance des bontés de l'imagination avec le cœur, de la volonté avec l'intelligence, de l'intelligence avec la chair, etc., de l'âme avec l'esprit, etc. C'est une interdépendance de la conscience sensible avec la conscience de raison, de la conscience raison avec la conscience d'amour, de la conscience d'amour avec la paternité vivante de Dieu, avec le mouvement circulaire, avec les mouvements d'amour, avec les mouvements d'accueil. Et tout ça, il y a tout ce qu'on avait vu, donc vous voyez, il y a des connexions, c'est des vases communicants, tout ça. Si je reçois dans mon imagination quelque chose de bon, ça se répand dans mon cœur, dans mon intelligence, dans ma chair, dans mon introduction dans la vie éternelle. Mais avec le péché originel, ça ne tombe pas dans mon imagination, ça tombe dans mon imaginaire, manque de peau. Alors ça perturbe encore plus. Et ça réveille une tentation. Et si j'ai une connivence avec le résultat, voyez, de ce réveil que mon imaginaire a introduit en moi sans y veiller, voyez, si j'ai une connivence, paf, je tombe dans une de ces 10 maladies spirituelles. C'est pour ça qu'il faut être vigilant, il faut prier. Voyez. Mais entre, ça ne veut pas dire que c'est anarchique. Hein. Autant il y a un ordre dans la dislocation. De même qu'il y a un ordre de l'esprit à l'âme, de l'âme au corps, de l'intelligence, de la mémoire à l'intelligence, de l'intelligence au cœur. Il y a un ordre. Alors, il faut voir cet ordre. 4 principes premiers peuvent être dégagés. Je vais vous lire ça, c'est très intéressant. Il faut guerroyer, dit Évagre le Pontique, avec méthode contre l'adversaire qui est en nous. Il faut donc, pour cela, savoir quelle passion doit être combattue en priorité. Donc, 4 principes premiers doivent être dégagés. Premièrement, il s'agit de commencer par combattre les passions les plus grossières, les plus matérielles, les plus liées au corps. C'est les passions corporelles. Il faut commencer par ça. Et partant, les plus apparentes, à savoir la gastrimargie et la luxure. On passera de là aux passions moins visibles, plus intérieures, et on terminera par les plus subtiles et les plus difficilement discernables sous leur masque multiple, à savoir évidemment, les plus subtiles, c'est la sénodoxie, la vaine gloire et l'orgueil. La raison de cet ordre est pédagogique, il va du plus accessible au moins accessible, mais se fonde surtout sur le fait qu'il est impossible de déraciner les maladies spirituelles les plus fines si les maladies spirituelles corporelles les plus grossières n'ont pas déjà été extirpées. Il est donc impossible de se dégager de la vaine gloire si on n'est pas dégagé de la sédie, par exemple. Le dégoût de la prière, de la tristesse, etc. De l'amour de l'argent. Pardon ?
La
philargyrie.
Non, tout à fait la première.
La philotie. Vous voyez ? Ben, bougez pas, je découvre, hein, hein. Je découvre avec vous, on cherche ensemble, d'accord, hein.
Ouais.
Oui, oui, non, mais déjà, tu connais le mot, c'est déjà pas mal. Tu fais comme moi, je peux pas te... On va le découvrir. Il convient donc de respecter l'ordre suivant. Premièrement, gastrimargie. Ça, c'est les faiblesses liées à la gastrophilie. On dit quelquefois la gourmandise. D'abord, gastrimargie 1, luxure 2, tellement. Philargyrie et pléonexie 3, amour de l'argent et avarice. 4, colère, 5, tristesse, 6, acédie, 7, vaine gloire, synodoxie. et 8 orgueils, mais ils sont là. C'est là, c'est le même ordre. Gastrimargie 1, luxure 2, puis l'argyrie, puis l'onexie 3. Oui. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Colère 4, vous avez raison. Colère 4, tristesse 5, assédie, dégoût, découragement, dégoût, hein. J'ai plus la foi, 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 j'ai plus la foi. J'ai plus la foi, j'y crois plus, j'y crois plus, j'y crois plus, j'y crois plus. Ça, c'est après la tristesse. C'est pour ça que les gens ne sont pas très pressés de déraciner leurs racines d'amertume. Parce que, instinctivement, on sait qu'on sera confronté à la sédie. J'y crois plus du tout, j'ai plus rien. Je ne peux plus m'appuyer sur ce que j'y crois plus. Alors, on pleure encore, hein. Mais c'est d'autres pleurs, ça. Voilà. Ah, bah alors après, c'est la sénodoxie, la fin de gloire. Et ensuite, c'est l'orgueil. À la crainte, tu les laisses tomber pour l'instant. La crainte, c'est une crainte servile, c'est pas tout à fait. Ça ne se combat pas. Non. Il n'y en a que 8 à combattre. Saint Jean Cassien écrit à ce propos : quelque diversité que les vices présentent dans leur origine et le mode dont ils se consomment, les 6 premiers, c'est-à-dire la gastrimargie, la luxure, la philargyrie, la colère, la tristesse et la sédie, les 6, sont liés l'un à l'autre par une sorte de parenté et pour ainsi dire l'enchaînement mutuel, tellement que l'abondance de l'un devient le principe du suivant. Donc si vous êtes gonflé en gastrimargie, vous mettez une grosse pression, une très grosse pression pour avoir un problème dans l'ordre de luxure. Si vous gonflez en luxure, en concupiscence, vous voyez, ce vice lié au plaisir de la chair, alors à ce moment-là, pouf, vous risquez de devenir avare. Vous risquez de devenir avare, vous voyez, à l'amour de l'argent et surtout cette espèce de vice qui consiste à être très préoccupé de compter en plus, en moins, au détail près, inutilement, bêtement, vicieusement et stupidement, étant indifférent à toute autre chose. Et si vous gonflez trop l'amour de l'argent, l'avarice, alors forcément, quand vous ne le faites plus parce que c'est plus possible, parce que vous ne voulez pas montrer un visage trop ridicule, alors à ce moment-là, vous êtes confronté à quoi quand vous faites silence ? À la tristesse. Etc. Donc vous voyez, donc, c'est très important cette histoire, hein, qu'il y a une parenté et surtout que quand le précédent gonfle, il donne source au suivant. Le déportement de la gastrimargie produit nécessairement la luxure. C'est nécessaire. C'est un lien de nécessité. La luxure, la philargyrie. La philargyrie, la colère, la tristesse. C'est vrai, la philargyrie, la colère. Hein. Le problème d'argent, si on vous titille un petit peu trop, au bout d'un certain temps, vous mettez en colère. Si vous voyez que votre colère est ridicule, elle est ridicule, elle est ridicule, elle est ridicule, vous ne mettez plus en colère, du coup, et puis vous ne croyez plus en rien à cette vie. Vous voyez, c'est vraiment très impressionnant de voir ça. La tristesse, la paresse. Aussi convient-il d'employer contre eux une seule et même tactique. Elle consiste à commencer par le précédent, la lutte contre le suivant. On ne lutte pas contre une vice, on lutte contre ce qui le précède. Donc si vous voulez lutter contre l'avarice, eh bien, vous vivez de la chasteté le plus possible, la continence. C'est facile à comprendre ça. Si vous voyez. Il faut donc pour vaincre l'assédie, surmonter d'abord la tristesse, arracher en moi la tristesse, sinon ce dégoût par rapport à la foi, j'ai plus la foi, j'y crois plus, je peux plus, c'est pas pour moi, c'est trop, je peux plus suivre, c'est un espèce de découragement surnaturel, là, c'est dit. Pour bannir la tristesse, il faut chasser la colère. Pour éteindre la colère, fouler aux pieds la file argirie. Si vous avez un intense un peu de la colère, eh bien, il faut fouler aux pieds. Il faut se dire, bon, ben voilà, j'ai la main dans la poche. Le premier pauvre que je vais voir, c'est peut-être dans une heure, c'est peut-être dans cinq minutes. Hop, je lui file 100 balles. Hein. Non, je lis. Ok, je permettez que je vous lise des passages, après on va discuter, d'accord? Pour miner la lecture, il faut mater la gastrimargie. La gastrimargie, c'est quoi? C'est la boulimie. C'est je gonfle. Et je fais du cholestérol. Et du coup, j'ai des boutons partout. Moi non plus, ça je reconnais, je ne comprends pas très bien, ça vient du péché.
La colère.
Oui. Et la colère, qu'est-ce qu'elle... La colère, bah, ici.
Vous nous avez dit que quand on est là, c'était de la Marie. C'est pas de la Marie, quand on a
l'enfant. Non, attention. Vous n'avez pas compris. Si vous êtes en révolte contre votre père, en révolte, vous êtes tout le temps en révolte contre celui qui est proche de vous, en révolte contre votre Père. Vous n'avez pas pardonné votre Père, vous êtes en révolte contre Dieu. Vous dites, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais j'en ai marre, etc. C'est de la colère, c'est une espèce de révolte. Ça va se traduire quelquefois par des blasphèmes, par exemple. Mais c'est blasphème. C'est blasphème. Si vous voulez vaincre, c'est blasphème qui sort de vous. Par rapport à Dieu, mais aussi la révolte contre contre l'autorité. Le pape, c'est vraiment. Alors, eh bien, c'est parce que vous êtes trop lié à l'argent. Vous êtes trop lié à vos biens, mais c'est pas une question d'être pas d'accord.
Non.
Si tu veux, non, vous avez pas compris. S'il y a une révolte par rapport à une paternité, la colère, c'est toujours par rapport à l'autorité, une paternité, c'est une agressivité. Toujours, c'est l'irascible. L'irascible, c'est lié à quoi? Vous savez, dans le point de vue de l'amour, vous avez cette exigence de se donner complètement avec une très grande force à l'autre. Et une exigence ici d'accueillir. Vous avez le désir d'aimer. Et puis, vous voulez aussi être aimé. Vous avez le désir d'aimer, voilà la force. Mais vous n'avez plus le désir d'aimer si vous êtes coupé de la source d'amour. Parce que quand vous êtes coupé de la source d'amour, ça vous met ce désir d'amour qui est cette force dans l'ordre du don. L'irascible est déconnecté du cœur. Donc c'est le signe qu'on est coupé de sa source. Je vous l'ai déjà expliqué. Et si on est coupé de sa source, c'est parce qu'on est dans l'avoir. On est coupé de notre être d'amour, c'est qu'on est dans l'avoir. Et donc si on veut... D'ailleurs, quand je suis en train de rendre service, tout le temps, je rends service, à ce moment-là, c'est curieux, je ne suis pas en colère.
Moi, je pensais que c'était plutôt l'orgueil qui poussait à la colère.
Non, la colère peut se compliquer en orgueil, oui, ça. Mais l'orgueil... C'est quoi l'orgueil? C'est de nous mettre au-dessus de Dieu. C'est Dieu, c'est nous.
Oui, mais justement, quand on se met en colère...
Mais non, t'as pas besoin de te mettre en colère. Quand Dieu, c'est toi, c'est toi Dieu, c'est toi Dieu. T'as plus besoin de te mettre en colère, c'est tous des cons. C'est l'indifférence absolue, c'est... Parce que tu confonds l'avoir, l'idolâtrie, ça c'est l'idolâtrie, avec l'orgueil.
Mais il y a des gens qui n'ont absolument rien, par exemple, les gens de l'Église.
Mais il y a toutes sortes d'avoir, hein. Il y a toutes sortes d'avoir. Par exemple, j'ai été aimé, j'avais 18 ans, j'ai vraiment été aimé, Et quand 50 ans après, voilà, c'est mon seul avoir, je m'accroche à ça, à ce souvenir, ça a duré juste 3 ans, mais je m'accroche à ça, c'est mon seul avoir, le reste ne m'intéresse pas, le reste m'indiffère, je vis avec ça, c'est tout. Ça, c'est de la philarchirie. C'est l'amour d'un bien terrestre. C'est une idolâtrie. Je vis Johnny Hallyday. C'est Johnny, j'étais un groupie de Johnny et il m'a regardé. Vous vous rendez compte? Johnny m'a regardé. C'est fou, quoi. C'est merveilleux. C'est fou. Quoi, il doit venir au Zénith? Bon. C'est ça. Il ne faut pas confondre l'idolâtrie et l'orgueil, hein. Évidemment, quand on a une ignorance complète parce qu'on ne veut pas regarder son péché, on est un petit peu nul. Pour ça, eh ben, on confond tous les vices, justement. On est dans la confusion. Et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder la tentation, parce qu'il y a un discernement à faire. Il y a impossibilité de guérir de ces maladies spirituelles si on ne rentre pas avec un très grand amour dans ce discernement. Avec un très grand amour. Hein. Il faut un très grand amour pour entrer dans ce discernement. Les deux derniers vices, la cénodoxie et l'orgueil, sont pareillement unis entre eux dans la manière que nous venons de dire. La croissance du premier devient l'origine du second. On est donc d'accord. L'exubérance de la cénodoxie, c'est-à-dire la vaine gloire, la vanité, la grosse vanité. Moi, je continue à prier, je continue à être chrétien, ou je continue à faire du bien parce que. Mais si jamais plus personne ne me respecte, parce que depuis que je fais ça, on me respecte, on m'aime bien, on me regarde, on me le dit. Mais si on ne me le dit plus, si on ne me le manifeste plus, si on se moque de moi, si on laisse l'impression de me laisser tomber, si j'ai l'impression que d'être un objet d'indifférence tout en continuant à faire la même chose, ah ben non, ça, je suis tombé. Ça, c'est le signe de la vaine gloire. Parce que je faisais ça uniquement parce que ça me donnait un rôle, hein, ça me faisait du bien. Je ne faisais pas du tout pour faire du bien. C'est la vaine gloire. J'ai des signes, tu comprends? J'ai des signes. On me confirme, ça me fait du bien. C'est la vaine gloire, c'est la grosse vanité. On est bouffé hein, par ces trucs-là, de toute façon. Hein. C'est évident. Hein. Il ne faut pas dire que. C'est... Bon, peut-être qu'il y a. Non, sauf ici, bien entendu. Si on est totalement blanc de tout ça, c'est ça la grâce de Marie-Reine. Pas pris du tout par ça. Donc la croissance du premier devient l'origine du second. L'exubérance de la cénodoxie allume le foyer de l'orgueil. Voyez, parce que si on se laisse, si on ne lutte pas contre la vaine gloire, eh bien, on a une tendance à vouloir aller vers l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? À venir finalement s'isoler, se reposer, être tranquille tout seul, et que les autres ne me... Ce sont des bêtes sauvages. C'est des imbéciles. Alors... isole, laissez-moi tranquille, terminé. Puisque vous ne me considérez plus comme un saint, eh bien, je m'en vais. Je m'en vais au Canada. Tant pis pour vous. En vertu de ce principe, dans cette série comme dans la précédente, c'est intéressant, hein? La croissance de l'un produit le suivant, et en diminuant de force, il nous en délivre. En vertu de ce principe, pour bannir l'orgueil, on doit d'abord étouffer la cénodoxie. Évagre le Pontique. Évagre le Pontique, c'est vraiment un type, une conférence d'Évagre le Pontique. Troisième principe. Si les huit principaux vices font ensemble la guerre à toute l'intériorité humaine et au genre humain tout entier, leurs attaques ne se présentent pas de la même manière chez tous indistinctement. En conséquence, après avoir présenté le principe précédemment exposé, c'est Saint Jean Cassien. Oh, j'espère que vous avez tous lu au moins une fois dans votre vie Saint Jean Cassien. Vraiment extraordinaire. Et parce que Saint Jean Cassien, c'est le premier ermite français. Enfin, de la chrétienté. Parce qu'il y avait eu les ermites Marie-Madeleine et Zachée, qui étaient les disciples du Christ. Mais après, il n'y a plus rien eu du tout. Donc il a fallu attendre le IIIe siècle pour qu'il y ait les premiers ermites français. C'est Cassien, le premier. Et il s'est dit, moi, je suis français. Il savait qu'il y avait des saints immenses, saint Macaire, etc. Je ne me rappelle plus leur nom, et c'est idiot, parce que saint Philarmon, saint Sérapion, etc. Et donc, il a décidé avec son frère d'aller dans toutes les lores, tous les Montmorins du coin, tous les machins. Tu vois. Sur le Montmorin, c'est ridicule. C'est juste... Il y avait juste trois baveux, crapauds qui se tournaient. Mais tandis que là-bas, il y en avait des milliers, vous comprenez? Et avec des gens très extraordinaires. Alors, il y a été à pied, il a noté les secrets de chacun. Parce qu'on allait voir l'ermite, et puis on disait, je vous en supplie, père, on faisait une semaine de pénitence avant, hein, pain et eau, hein, et rien d'autre, hein, pour qu'il accepte d'ouvrir la porte. Hein. Et après, on se mettait à genoux devant lui, je vous en supplie, Père, parlez-nous de la manière de vaincre le péché. Aidez-nous. Alors, il y a Macaire qui regardait si tu avais fait un tout petit peu pénitence, et puis il disait, dans le désert, la victoire sur le péché s'obtient lorsqu'on meurt. Et puis, s'il voyait que c'était quelqu'un d'humble, et Cassien était humble, alors il continue. Alors il a noté. Il a noté. Et ça donne les confessions de Saint Cassien. C'est étonnant. C'est étonnant. Chacun de ces immenses géants du désert donnait, vous savez, il faut lire ça. C'est vraiment étonnant. Et quand il est revenu, il a donné ce livre à Saint Honorat, qui a fondé la première communauté cénobite de France à Lérins. À Lérins, près de Cannes. Donc si les huit principaux vices font ensemble la guerre à tout le genre humain, ce n'est pas de la même manière chez tous indistinctement. Saint Jean Cassien fait donc remarquer que l'ordre à suivre dans la lutte n'est pas identique pour tous. Saint Jean Cassien, c'est A-S-I-E-N. Vous trouvez aux éditions du CERF, hein, les confessions de Saint Cassien, aux éditions du CERF, vous savez, où on a les œuvres orientales, etc. L'ordre à suivre dans la lutte n'est pas identique pour tous. L'attaque ne se présente pas uniformément de la même manière, car c'est à chacun d'ordonner le combat selon l'ennemi qui le presse davantage. Tel devra lutter d'abord contre le vice qui est marqué troisième, tel autre contre le quatrième ou le cinquième. C'est évident ça. Ainsi donc, c'est d'après le vice qui tient chez nous le premier rang et selon que l'exige le mode de l'attaque que nous devons régler notre tactique. C'est génial, hein. Quatrième principe, parmi les huit passions génériques, donc il y en a huit sur lesquelles on se bat, on en a dix qui nous prennent, il y en a huit sur lesquelles on se bat, eh bien, parmi ces huit sur lesquelles on se bat, il faut savoir qu'il y en a trois qui sont fondamentales et qui engendrent les cinq autres, à savoir la gastrimargie, la philargyrie et la cénodoxie. Voilà les trois têtes. La cénodoxie. Donc, si vous préférez en français, parce que ça c'est du grec, la gourmandise, l'amour de l'argent, et le dégoût spirituel. La vaine gloire. Le dégoût spirituel, c'est l'ascétie. Donc, la vaine gloire, la cénodoxie, en français, la vaine gloire, la grosse vanité. Il est nécessaire que celle-ci soit éliminée pour que le soient aussi toutes les autres. Saint Jean Climac. Vous lisez aussi Saint Jean Climac, c'est amusant, quand il donne les 33 degrés de la vie spirituelle. Les 33 degrés de la sainteté. C'est là où il dit qu'un saint, c'est celui qui a, quand il est âgé, quand il est vieux, la même ferveur que quand il a commencé dans sa conversion. Si vous gardez la même ferveur quand vous êtes vieux, c'est là que vous êtes chrétien. La signature. Parce qu'être fervent quand le Seigneur vous donne un esprit nouveau, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être une puissance démoniaque particulière. Hein. Pas être fervent quand le Seigneur vous donne un esprit nouveau, il faut vraiment être ne pas le vouloir. Mais après, une fois que c'est installé, il faut garder cette même ferveur, donc il faut continuer, approfondir, intensifier. Avec une très grande ferveur, une immense zèle. Et si on continue à le faire, à la fin, on est un saint. Saint Jean Climac, l'échelle, ça s'appelle son livre, l'échelle de Saint Jean Climac. Donc voilà ce qu'il dit, celui qui a terrassé par l'Esprit de Dieu les trois passions a détruit aussi les cinq autres. Donc les trois passions, la gastrimarchie, la phylarchie, la cénoxie, eh bien, il va avoir la victoire sur le luxure, l'amertume, la saisie, la colère et l'orgueil. Et aussi, évidemment, la pléonoxie. C'est évident. Mais celui qui néglige de vaincre ces trois-là ne pourra en surmonter aucune. Le caractère radical de la formule de Saint Jean Climac, ici citée, a surtout pour but de faire comprendre qu'il est peu utile de s'attaquer aux passions dérivées si on n'a pas combattu en priorité leur chef de file. Mais il ne doit pas nous faire oublier que loin d'être vaincus d'un seul coup, les passions, les maladies spirituelles, ne sont détruites qu'après qu'elles aient été toutes ensemble combattues et progressivement affaiblies au cours d'une lutte toujours plus longue. Alors, puisqu'il y a ces trois passions mères, nous allons regarder chacune de ces trois passions mères un petit peu. Un petit peu, juste la définition, hein, c'est tout. Hein. Donc la gastrimarchie. J'ai pas besoin de vous dire ce que c'est que la gastrimarchie. La gastrimargie, c'est la recherche du plaisir du manger. C'est l'intempérance de la bouche et du ventre. Le fait de parler beaucoup, c'est de la gastrimargie. Hein. Elle peut porter sur la qualité des aliments. Elle est alors la recherche de mets savoureux, qu'est-ce que c'est bon, de sauce particulière, enfin, délicat, le désir que les aliments soient apprêtés avec soin. Elle peut porter principalement sur leur quantité, alors le désir de manger beaucoup, jusqu'à ce qu'on se pète les sous-ventrières. Vous savez. Voyez. Dans les deux cas, il y a recherche d'un certain type de plaisir corporel. C'est pourquoi la gastrimargie peut être classée parmi les passions du corps. Voyez. Ce n'est pas dans l'acte même de manger que se trouve la maladie spirituelle, mais dans l'attitude intérieure qui y préside et dans le but qui lui est assigné par celui qui vit dans cette ligne. Dans l'usage de la nourriture, c'est une même action de manger par besoin et de manger par plaisir, mais le péché est dans l'attitude dans laquelle on le fait. C'est pour ça que vous mangez. Le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture ou de boisson. Mais si on reçoit tout dans la gratitude, dans l'action de grâce, dans la bénédiction, on essaie de se nourrir du fromage de gruyère comme si c'était un fromage de gruyère vivant. Dit Saint Jean Cassien, mais qu'il répète de Saint Sérapion, je ne sais pas. Il y a là tout un foyer de maladies spirituelles de l'âme aussi redoutable que ces maladies sont nombreuses. La gastrimargie doit être considérée par nous comme une forme de folie humaine et d'hystérie, d'idolâtrie. Parce qu'elle met l'homme hors de lui-même. Dans l'un, il devient insensé. Quand il arrive à quelqu'un cette maladie et cette folie de vouloir se remplir le ventre, on l'appelle fou du ventre. Gastrimargia. Quand il s'agit seulement du plaisir de la bouche, on l'appelle l'hémargie, c'est-à-dire folie de la bouche. C'est une folie. C'est une hystérie. Vous voyez, c'est très hystérique. Pour les saints et pour les ascètes, pour ceux qui veulent guérir cette maladie spirituelle, ils remarquent qu'en effet, l'excès d'aliments ou de boissons, ces folies, soit de la bouche, soit du ventre, privent l'esprit d'énergie, de vivacité, de légèreté, plongent l'esprit et le corps dans un état d'obscurité, de torpeur, de sommeil. Conséquence qui se répercute sur l'âme tout entière. Vous voyez ? Une telle disposition a pour effet d'entraîner vers le bas toutes ses facultés contemplatives, affectives, et spirituelles. Elles enchaînent les esprits à ce qui est sensible, le déprime vers le terrestre, comme le ferait une lourde pierre qui pèserait sur lui, plus léger par nature et plus vif que le feu. Voyez, l'intelligence dans cette situation apesantie et étouffée perd sa capacité de discernement, de jugement et ne cherche plus la vérité. C'est pour ça que dans une société gavée, on ne cherche plus la vérité. L'abus de nourriture et de boisson provoque encore les troubles des pensées et de l'imaginaire et souille l'âme. Saint Isaac le Syrien dit qu'en effet que l'abus de nourriture, c'est l'intelligence déréglée qui divague par toute la terre. Ce sont les imaginations impures. Dans la souillure des fantasmes et de l'extravagance des images pleines de la convoitise qui traverse l'âme, et y fait qu'elle veut ce qu'elle veut en toute impureté. Le ventre en effet trop plein fait du cœur une quadruple porte de fantasmes délirants et hystériques. Saint Grégoire de Nice explique que les plaisirs de la nourriture et de la boisson qui se gorgent d'aliments produisent nécessairement dans la chair, par ce manque de mesure, un mal indépendant de notre volonté. Car la satiété de la bouche et du ventre enchante le plus souvent chez l'homme toutes les passions. La gastrimargie ouvre ainsi inévitablement la porte à cette foule des passions et elle les développe. Voici les passions et les maux qui sont engendrés directement par la gastrimargie. Alors je vous le donne. Saint Jean Climac, dans l'échelle aussi, les 32. Mon premier-né, dit la gastrimargie, c'est d'être l'esclave de la luxure. Mon second, l'endurcissement du cœur. Le troisième, le sommeil. De moi procède une mer, un océan de pensées, des flots de souillures, un abîme d'impuretés insoupçonnées et innombrables. Voilà pour mes fils. Quant à mes filles, ce sont la paresse, le bavardage, la désinvolture, la plaisanterie, la bouffonnerie, l'esprit de contradiction, la raideur, l'opiniâtreté, l'insensibilité, la captivité, la suffisance, la témérité, la vantardise, qui entraînent à leur suite l'impureté de la prière, une prière qui n'est pas pure. Le tourbillon des pensées, vous voyez, la folle du logis, et à leur suite, les malheurs soudains et inattendus auxquels est étroitement lié le désespoir, le plus néfaste de tous les enfants que je mets au monde. Tout ça est lié à la gastrimarchie. Mais la passion que la gastrimarchie introduit principalement et le plus immédiatement, c'est la luxure, comme on a déjà pu l'entrevoir à partir des textes cités ci-dessus. Vous lirez cet été ce livre, parce qu'il n'y a pas que la liste des passions mères et des passions secondes et des passions les. Il y a aussi la thérapie. Il y a la thérapie. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre la gastrimargie? Hein? Bon. Eh bien, je peux vous dire, tout simplement, rapidement, si vous voulez, il faut aimer le bon Dieu suffisamment, il faut bénir sa nourriture, mais quand on bénit sa nourriture, il faut supplier Jésus de nous mettre en dessous du ventre, dans un état de gratitude, pour que la bénédiction vienne de en dessous du ventre. Tout ce qui est reçu est toujours arrosé par le dessous d'une bénédiction intérieure. Une action de grâce, c'est reçu comme une coupe de bénédiction, un petit peu comme à l'offertoire. On reçoit du fromage de gruyère et c'est tout de suite offert. Premièrement, manger dans l'action de grâce. Tout ce qu'on mange, il faut s'en nourrir dans l'action de grâce. Vous voyez ? La philotie. Il faut le faire dans l'amour du prochain, c'est-à-dire l'amour de l'autre, l'amour de Dieu. Dans le cœur. Il faut que notre cœur soit réveillé. Il faut saisir la grâce qui est cachée en dessous de notre cœur et manger avec cette grâce cachée en dessous de notre cœur. Ça va ? Premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas manger à satiété. C'est-à-dire qu'il faut prendre, à manger, mais faut pas attendre d'être repu. Troisièmement, il faut volontairement, au cours de chaque repas, retirer au moins une fois quelque chose. Par exemple, au moment où je suis en train de manger, si je me regardais, si je me laissais aller, je prendrais 7 croissants. Eh bien, j'en prendrais 6. Je retranche un peu. Par exemple, je bois. Première gorgée, deuxième gorgée. Si je me laissais aller, je prendrais une troisième gorgée. Je laisse la troisième gorgée. Je la prendrai 5 minutes plus tard. De l'eau. Je retranche quelque chose. Je retranche volontairement quelque chose quand je suis pris sur le fait que ça rentre sans bénédiction. Ah, ça rentre sans bénédiction. Donc je continue à boire une. S'il n'y avait pas cette prise de conscience, j'aurais continué à boire une quatrième gorgée. J'enlève la quatrième gorgée. Ne vous inquiétez pas, je peux reprendre dans 30 secondes. Mais j'ai retranché volontairement à un moment du repas quelque chose. Quatrièmement, il faut choisir un ou deux jours de jeûne par semaine. Par exemple, j'ai vu une de mes sœurs l'autre jour, elle m'a dit, ton frère, mon frère jumeau, elle dit, il jeûne deux jours par semaine. Et alors, c'est de l'eau, hein. Et quand il vient à un repas, il est là, il est à table, il est bien élevé, mais il boit de l'eau, c'est tout. Alors, non merci, ça va, j'ai déjà mangé, ah, très bien. Et vous ne lui ferez pas manger une biscotte, hein. Hein? Ah ben non, mais c'est normal, je veux dire. Non, mais enfin, il faut savoir jeûner, regardez. Il faut savoir jeûner. Il faut accepter de jeûner. On se débrouille pour jeûner de temps en temps. Pourquoi ? Parce que, pourquoi ? Et au moins une fois par semaine. Pourquoi ? Parce que la gastrie margie, c'est le ventre. Hein. Le ventre, il n'a pas faim de nourriture. Il est rentré dans un mécanisme d'horloge. Et donc, il a l'habitude le matin de manger, le midi de manger, le soir de manger. Il n'a pas besoin. Mais, tiens, il y a l'heure de midi qui arrive. Ah, il est habitué, le pauvre. Ça fait des centaines de milliers de fois qu'à midi, à chaque fois, on lui fait faire un effort gigantesque. Il y a un roule comme ça. Alors, il dit là, je m'habitue, je me prépare, j'ouvre grand la bouche. Hein. J'ai pas besoin, mais tant pis, sinon il me fait violence, ce salaud. Donc, il s'ouvre, etc. Vous comprenez? Il n'en a pas besoin, mais il est obligé. Donc, une fois par semaine, une fois par semaine est très important, hein, je tiens à vous le dire, parce que le travail d'une semaine, c'est... Une fois par semaine, il faut laisser la nature opérer, en disant, au lieu que ce soit moi qui fasse violence à mon ventre, eh bien, très bien, je vais faire violence à la gastrimargie. Et donc, par exemple, pendant une journée, ben, je ne vais pas prendre... je vais prendre que de l'eau. Je vais prendre que de l'eau. Vous pouvez prendre du pain si vous voulez. Bon, enfin, de toute façon, ça dépend si votre problème porte sur la qualité ou sur la quantité. Hein. Si c'est la boulimie, jeûne une fois par semaine. Si c'est sur la qualité, alors là, vous retranchez pendant le repas. Ou au moins une fois par semaine, vous prenez volontairement quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Par exemple, vous voyez à l'airain, ce qu'on faisait, c'était pas suggéré, mais enfin c'était évident puisque c'était sur la... On pouvait en rentrer dans la salle, c'était au milieu, donc faut pas prendre. Vous pouviez prendre, pour le petit déjeuner du carré, vous preniez un espèce de lait, mais c'était du lait pourri, quoi. C'était du lait. Alors vous preniez ça dans votre bol, et puis vous preniez ça. Alors on prenait ça. Mais oui, parce que au moins on prenait, c'était très bon pour la santé. C'était très bon pour la santé, mais c'était vraiment, c'était ignoble. Alors, vous preniez du café et vous mettiez ça là-dedans. Mais, c'était génial. Pour la gastrimargie, ça c'est radical. Hein. Gastrimargicalité. La gastrimargie quantité, alors là, vous voyez, faire un jeûne une fois par semaine. Parce qu'à ce moment-là, vous voyez, quand Jésus rentre au désert, il va au désert, il eut faim. Si vous, tous les gens qui pratiquent le jeûne le savent, si vous prenez que de l'eau, par exemple, et même peut-être un petit bout de biscotte, par exemple, un petit bout de biscotte, comme faisait par exemple le Père Arnoux pendant le carême, c'était juste l'hostie consacrée, avec, il communiait, et puis c'est tout. Bon, on vit très bien. Hein. Alors évidemment, l'estomac, il se dit, attends, midi, soir, rien du tout. Alors il y a des réactions. On ne se sent pas bien. Deuxième jour, ah, ça ne va pas bien, ça tombe, monte à la tête, maux de tête. Troisième jour, ça monte, c'est marrant, l'estomac qui dit, c'est les services de commande qui mangent, alors ça transpire, on a des mal, des maux de tête, et tout ça, c'est pas du tout parce qu'on est mal, parce qu'on n'a pas mangé, parce qu'on a besoin de manger. C'est parce que c'est ton ventre qui te dit, mais alors quoi, tu veux plus me faire le forceps aujourd'hui là, Le troisième jour, ça va mieux, ça redescend. Le quatrième jour, tu n'as plus faim. Le quatrième jour, tu continues à prendre juste ton eau et ton petit biscuit ou ta petite biscotte comme ça, ou ton hostie. Hein? Tu n'as plus faim. Et tu peux rester comme ça jusqu'à ce que tu aies faim. Et tu vas découvrir quand ton estomac demande de la nourriture, parce que ton corps en a besoin. Et pour certains, c'est au bout de 40 jours. Pour certains, c'est au bout de 15 jours. C'est pas du tout dangereux. Mais si vous faites... Il faut comprendre que quand vous dites « j'ai faim », eh bien, vous n'avez pas faim. C'est votre estomac. Comment ça, quelquefois, c'est vrai? Mais enfin, je vous donne le cinquième principe. Donc, vous arrêtez de manger une fois par semaine. Vous n'avez aucun discernement sur le besoin naturel de nourriture et sur le besoin vicieux de nourriture. Vous n'avez aucun. Et si vous faites un jeûne une fois par semaine, peut-être pourrez-vous arriver à distinguer le besoin vicieux. C'est un péché mortel, hein, je vous signale. Hein. C'est une matière grave. Hein. Ah, je ne veux pas voir. On fait un jeûne une fois par semaine. Voyez. Et si on peut, dans l'année, un jeûne de plusieurs jours. Voilà pour la gastrimargie. Rapidement, je fais très rapidement les deux autres. Une passion mère. La philargyrie. Deuxième passion mère. Acquérir des richesses, l'amour de l'argent. La philargyrie sont vraiment aussi donc des maladies de l'âme. C'est un désir inassouvi de posséder davantage, mais aussi de conserver, de préserver ce qu'on a déjà, provoque un tourbillon continuel des troubles, des bouleversements permanents. Elles engendrent tout d'abord dans l'âme un état de crainte, d'anxiété et même d'angoisse. À l'anxiété s'ajoute un autre effet pathologique fondamental, la tristesse, un état dépressif de l'âme, qui résulte de la frustration du désir de posséder davantage, du sentiment corrélatif de ne pas avoir assez, ou de l'idée qu'on risque de perdre ce que l'on possède, ou alors d'une perte effective de ce qu'on a déjà eu et auquel on était attaché. Le riche, donc, ne trouve aucun plaisir dans les richesses qu'il a, au contraire. Bon, voici le caractère maladif, grave, pathologique et hystérique de la philargie, de la poléonexie, l'avarice, hein, la pléonexie. La plénodoxie, pardon. Non, la pléonexie. Se révèle encore dans les multiples passions qu'elles engendrent. Ainsi, Saint Nicétas Tétatos demande si cette maladie est un tel mal qu'elle a reçu le nom de seconde idolâtrie, de quel vice ne débordera pas l'âme qui d'elle-même se rend ainsi malade. En effet, philargie, amour de l'argent, et pléonexie, avarice, détruisent la charité. Elles enfantent par là même toutes les passions qui sont contraires. Vous voyez ici que la gastrimargie détruit l'intelligence, détruit la recherche de la vérité, détruit la vie contemplative, détruit la foi. Tandis que l'amour de l'argent, l'avoir, et cette espèce de calcul tout le temps qu'on fait, ce dégoût qu'on a de donner même 5 francs, détruit, voyez, la charité. Elles enfantent par là même toutes les passions qui lui sont contraires. Les voici. Alors je ne vais pas vous dire, mon fils aîné, etc. Hein, je vous le dis à la suite. Insensibilité. Aversion. Haine, inimitié, ressentiment vis-à-vis du prochain, esprit de contestation, instinct de querelle. Je réagis primo primi immédiatement. Tu m'attaques, je réponds tout de suite. Esprit de querelle, crime, etc. Plus profondément, au fond du cœur, elles produisent la crainte, l'abattement, l'amertume et la tristesse. Il faut signaler qu'elles peuvent également engendrer dans l'âme elle-même, la source de mon intériorité, qui n'est pas pareil, hein, vous voyez, à chaque fois, dans toutes les puissances, hein, les différentes choses que ça engendre dans chacune des puissances. Donc, pour la source de vie, donc l'intériorité de l'âme, elle engendre la colère et diverses formes de violence, mais aussi la paresse, le manque de force de la volonté, le manque d'élan, l'orgueil, la vanité et les concomitants de ces deux dernières passions, à savoir l'apparence assurée, l'esprit de supériorité, le mépris du prochain, le manque de respect, l'insolence et l'arrogance. Considérons attentivement que ce qui favorise et fortifie le développement, la croissance, l'intensification de ce vice, de cette maladie spirituelle, autrement dit ses sources et ses causes, la philargyrie en effet a trois causes, le plaisir, je suis dans un état de bonheur et de plaisir en ce moment extraordinaire, et bien ça engendre l'amour de l'argent et l'avarice. Enfin, j'ai trouvé le bonheur. Attention, source de cette passion mère diabolique. Hein, c'est pour ça que la vie humaine ne consiste pas à chercher le bonheur. On ne cherche pas à rentrer dans la source de la putréfaction. Ce n'est pas du tout la recherche du bonheur, la vie humaine. La vie chrétienne, encore moins. C'est la gloire de Dieu, c'est tout. La volonté de Dieu. La vaine gloire. La vaine gloire, la vanité, quelqu'un qui se vante, une fois qu'il s'est vanté, eh ben, il a intérêt à conserver, hein, pour pas perdre sa face, ce sur quoi, et il faut qu'il acquiert ce qu'il a, hein, c'est facile à comprendre. La vaine gloire, le manque de foi, mais le manque de foi est la source la plus sérieuse des trois. Saint Jean Chrysostome donne les raisons suivantes. Vouloir l'emporter sur autrui dans la possession des biens charnels, cela n'a pas d'autre principe que le refroidissement de la charité. La cupidité, en effet, n'a pas d'autre source que l'orgueil, la haine des hommes et le mépris. Et enfin, le dernier, c'est la cénodoxie. Ah non, je ne dis pas la thérapie, puisque vous allez l'étudier, ça, pendant l'été. La cénodoxie, donc la vaine gloire. Hein. La vaine gloire s'enfle du désir d'un vain renom pour les biens spirituels et cachés. Moi, je voudrais être renommé quand on voit quand même que je suis... Hein? Et que les gens qui sont proches de moi voient quand même que j'ai fait des progrès, etc. Hein? Donc la cénodoxie est considérée par les pères et par les hommes de sagesse comme une maladie et une folie furieuse. La cénodoxie, dit Saint Jean Chrysostome, est une sorte de folie furieuse. Elle trouble la raison de celui qui s'y trouve, qu'on y trouve jusqu'au délire. On délire là-dedans, on délire. Et c'est très très extraordinaire. Alors, la cénodoxie plonge l'homme dans l'illusion et l'hystérie délirante. C'est un de ses effets pathologiques fondamentaux. Elle révèle que l'homme cesse d'avoir foi en Dieu suivant l'enseignement du Christ lui-même, qui demande comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et ne cherchez pas la gloire qui vient seulement de Dieu caché. C'est pourquoi saint Jean Climac qualifie le vaniteux d'idolâtre, et même saint Macaire note les hommes qui font son éloge, ce sont eux qui sont ses dieux. Vous voyez, c'est extraordinaire. Comme vous cherchez la vaine gloire, vous n'adorez pas Dieu, vous adorez ceux qui vous louent. Vous dépendez d'eux. Vous ne dépendez que d'eux. Puisque le jour où ils ne vous louent plus, vous laissez tomber toutes vos œuvres spirituelles. Ça, c'est la vaine gloire. Vous ne voulez plus les aimer le jour où ils ne vous louent plus. Vous ne voulez plus coopérer avec eux le jour où ils ne vous louent plus, où ils ne vous le disent plus, où ils ne vous flattent plus. Alors, détruisant le plaisir qui s'attache à... On sent bien, évidemment, quand on vous loue, hein, ça fait la flatterie spirituelle. Le plaisir qui s'attache à la cénodoxie peut quelque temps combler l'âme. Il ne saurait longtemps conserver ce pouvoir en raison, nous l'avons dit, de son caractère partiel, fugace, irréel, virtuel, à l'image des objets charnels dont il se nourrit. La cénodoxie nourrit l'âme et lui fait du bien passager. Elle flatte l'âme pour un temps provisoire, mais ensuite la rend vide, sans vertu, toute nue, stérile, privée de tous les fruits spirituels, en sorte que non seulement elle détruit le mérite de peines considérables, parce que vous pouvez avoir fait une ascèse considérable, avoir fait en arriver là. Vous voyez, vous avez vaincu la gastrimargie, la luxure, la philarchie, l'acédie, la colère, vous avez vaincu, vous êtes devenu doux comme un agneau, vous avez vaincu, vous avez trouvé cette sérénité, et vous êtes en pleine cénodoxie. Eh bien, la cénodoxie détruit totalement le mérite de toutes les peines considérables qui vous y ont fait parvenir, parce que c'était une idolâtrie de vous-même et une dépendance vis-à-vis de la gloire qu'on vous donnait. Mais elle lui vaut aussi les supplices les plus grands, le désespoir, n'est-ce pas ? Détruisant les vertus acquises et tout le bien qu'on a fait jusque-là, c'est pour ça que c'est... La cénodoxie fait d'abord réapparaître dans l'âme les passions correspondantes et ouvre ensuite la porte à toutes les autres passions déjà vaincues. C'est une réouverture merveilleuse et subtile. Les pères l'arrangent parmi les trois passions mères qui sont la source de toutes les autres. Saint Marc le moine la qualifie de racine des mauvais désirs, de cause de tous les vices, de mère du mal. Et enseigne qu'elle mène naturellement à l'esclavage définitif du péché. Parce que jusque-là, c'était un esclavage provisoire. C'est l'orgueil avant tout. Donc, qu'est-ce qu'elle introduit ? Une fille aînée. L'orgueil. C'est pour ça. L'orgueil avant tout qu'elle introduit. Elle en est le précurseur, le commencement, la matrice, la vivification, ainsi que toutes les passions qui sont liées à l'orgueil, à savoir le blasphème, le jugement, le mépris d'autrui, l'esprit de domination, l'amour du pouvoir, l'endurcissement du cœur, la désobéissance. Elle enfante secondairement, lorsqu'on est rentré dans ses premières passions filles, elle enfante secondairement la colère et tous ses satellites, donc fils, c'était les premiers, petit-fils, la colère, arrière-petit-fils, la haine, la rancune, la jalousie, les discordes et du coup on se dispute. Et encore, le mensonge, l'hypocrisie, les paroles, les vaines paroles, la pusillanimité et du coup, on retrouve les passions grossières, la luxure, la philarchie, la pléonexie, Et pour terminer le tout, du point de vue de l'intériorité, une ambiance de tristesse. Notons pour terminer que le démon joue un rôle très actif dans l'apparition et le développement de la vaine gloire. Attention, parce que c'est les démons. Vous voyez, ici, les démons s'emparent de votre angoisse, de votre état un petit peu de peur et de dégoût pour vous faire entrer dans la vaine gloire. Le démon joue un rôle, là. Hein. Les démons favorisent cette passion dans le but de faire périr l'âme. En effet, voici ce que dit Saint Diadoque de Fautissée. C'est l'amour de la gloire surtout que les démons prennent pour occasion de leur propre malice finale. Ils sautent par elle dans les âmes comme par une fenêtre obscure. C'est là qu'ils la saccagent en entier et le mieux. Celui qui accepte en lui cette passion accomplit ainsi la volonté du diable pour en devenir finalement l'esclave et le jouet. Celui qui aime à être glorifié des hommes livre son âme à l'ennemi primordial et l'ennemi primordial la livre à beaucoup de maux. Cette âme leur appartient entièrement. C'est Saint Isaïe. Voilà les passions mères. Donc, très très beau livre. Vous avez... Si, non, 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 mais... Donc, alors, vous avez là-dessus comment retrouver l'amour. Comment retrouver l'amour au fond du cœur et comment est-ce que l'amour, c'est l'amour du fond du cœur qui va nous faire sortir, vous voyez, nous permettre de lutter contre ces maladies et d'être guéri. Parce que ça, c'est des maladies qui viennent du péché originel sur lesquelles nous avons mis, sans faire attention, certainement, en y faisant attention de temps en temps, notre connivence. Nous avons mis notre connivence, nous y avons coopéré. Et donc, on peut très, très bien en guérir. Donc ici, on en guérit. Mais pour ça, il faut vivre de la charité fraternelle. Il faut que l'esprit, le cœur du Christ prennent notre cœur. Et donc, quelles sont les grâces charismatiques du cœur qui nous permettent d'avoir la guérison définitive par rapport à ces 10 maladies spirituelles de l'âme? C'est ça. Il faut bien qu'on définisse les maladies spirituelles en question. Il faut d'abord les regarder avant de savoir, pour savoir laquelle, sur laquelle il faut que je tire à bout portant, parce que c'est celle qui me prend le plus. C'est celle qui, où c'est assez net que j'ai mon centre de gravité. Et du coup, grâce à la sagesse des pères de l'Écriture et des saints docteurs du désert, vous voyez, qui sont vraiment les docteurs de la lutte contre les maladies spirituelles qui sont engendrées par la tentation, la première métatentation, ce qui est la tentation du péché originel dans laquelle nous avons mis notre connivence. Alors, à ce moment-là, c'est de telle manière qu'on obtient cette guérison. C'est toujours l'amour, remarquez, mais pas n'importe comment. C'est d'une certaine manière qu'on va réussir à le vaincre. Il y a un amour du prochain qui s'opère d'une manière particulière. Je ne vais pas vous le faire. Je ne vais pas vous le dire, puisque c'est l'objet de votre méditation, et puisque vous allez l'acheter. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.